Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, toujours en direct sur CNews, exceptionnellement jusqu'à 21h30 aujourd'hui et toujours face à face, Geoffroy Lejeune, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir.
Bonsoir messieurs.
Ravi de vous retrouver également. À la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture sous tension, vous le savez, alors que les paysans ont manifesté dans Paris aujourd'hui, l'Élysée semble avoir commis une bévue en invitant l'association écologiste Les Soulèvements de la Terre à un débat avec Emmanuel Macron, ce qui a provoqué la colère et le boycott du syndicat agricole majoritaire de la FNSEA. Et ce soir, Emmanuel Macron a annulé ce débat. Vous lirez tout à l'heure son message sur les réseaux sociaux. Il estime que ce sont les agriculteurs qui sont à l'origine donc de ce refus. Ce midi également, rapide rétropédalage et grossière correction de la part de l'Élysée. Vous le voyez avec ce communiqué, les soulèvements de la terre n'ont été ni conviés ni contactés. Leur invitation était une erreur de communication faite lors de l'entretien avec la presse en amont de l'événement. C'est un peu l'usine à gaz. C'est grave ou anecdotique, Geoffroy Lejeune ?
Alors pour moi c'est pas du tout anecdotique. Déjà parce que il semblerait qu'il y a un mensonge dans le récit qui nous est fait depuis l'Élysée. C'est-à-dire que moi j'écoute les confrères et notamment notre jeune ami de CNews Florian Tardif qui a raconté aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'il avait vérifié deux fois. Il a eu l'info une fois puis il l'a vérifié une fois puis une deuxième fois pour être sûr et certain qu'on parlait bien de ça et que ça lui a été confirmé avec ce verbatim qui ressemble beaucoup à l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président n'a peur de rien. Donc moi j'ai tendance à croire les 130 ouais. journalistes qui ont eu cette information. Et je trouve que d'ailleurs la manière d'essayer de démentir en mettant ça sur le dos de journalistes qui auraient tous collectivement mal compris dans un accès d'hypnose est un peu grotesque. Honnêtement, pardon, mais c'est voilà. Ensuite, pour moi ce qui est grave c'est l'intention initiale de les inviter après avoir voulu les dissoudre il y a quelques mois et puis surtout cette manière, vous savez, en fait c'est un aveu, ça rejoint un peu le livre, c'est presque le dernier chapitre du livre de Philippe
Guibert dont on parlera comme promis tout à l'heure dans la deuxième partie d'accord. de notre émission, il est là mais on reste sur les agriculteurs pour l'instant
mais si vous voulez, c'est le monarque qui veut être en permanence au centre, sous les projecteurs, dans la lumière et qui pense être l'arbitre des élégances en toutes circonstances. Il regarde la situation, il ne peut pas répondre à la colère des agriculteurs pour des raisons qu'on pourrait développer, on en a déjà beaucoup parlé ici, il ne peut pas leur répondre. Donc plutôt que d'essayer de faire semblant d'apporter une réponse, il organise un match complètement fictif avec des gens qui ne représentent rien ni personne en se plaçant au centre. Il a essayé d'organiser cette joute et ce qui est nouveau, et c'est, j'en finis par là, c'est que le roi est nu, en fait Jupiter n'a plus la maîtrise du temps comme c'était le cas au début de son premier mandat et pendant tout son premier quinquennat, parce que les gens ne jouent plus le jeu, le grand débat ne fonctionne plus. C'est-à-dire on ne veut plus être les faire-valoir d'un cirque, d'un cinéma où le président serait au milieu à distribuer les bons et les mauvais points. Donc les agriculteurs disent non, les soulèvements de la terre ont fait savoir qu'ils ne seraient pas venus et personne n'est d'accord pour jouer ce jeu.
Voilà, et d'autant que les paysans, bien que ce soit le président qui le précise, n'ont jamais demandé à ce qu'est ce grand débat. Ça a été proposé par Emmanuel Macron et notamment par l'Élysée. La communication politique, c'est un peu votre spécialité, Philippe Guibert. Franchement, sur une échelle de 1 à 10, c'est grave à quel point, cette erreur de communication ?
Ah, elle est belle, elle est forte celle-là. Mais je ne crois pas à une erreur, je suis désolé ouais. complètement ce qu'a dit Geoffroy. Je ne crois pas que c'est une gaffe, une maladresse d'un stagiaire. On ne peut pas imaginer, je vois que dans la presse on a deux conseillers qui sont un peu livrés à la vindicte, le conseiller écolo et le conseiller son conseiller technique. On arrête de se raconter des histoires. À l'Élysée, il n'y a pas de grand conseiller qui n'ait absolument aucun sens politique. Donc s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une intention politique.
Quelle intention politique ? Parce qu'ils sont considérés comme des éco-terroristes par Emmanuel Macron et par le gouvernement. Ils devaient être dissous, en effet. Et là, on les invite à la table des agriculteurs qui semble être le sujet le plus important du moment.
Le principe d'une bonne mise en scène en communication politique, c'est Jacques Pilon qui a expliqué ça il y a 30 ans, c'est de se mettre en danger. Et donc il voulait, je vais répéter avec d'autres mots ce qu'a dit Geoffroy, c'est de se mettre en danger en ayant des extrémistes d'un côté et puis des agriculteurs qu'on va mettre un peu en symétrie avec un président qui essaie de se placer au-dessus et en arbitre, non pas forcément des élégances, mais en arbitre des positions, en apparaissant comme l'homme raisonnable et pondéré qui est loin des extrêmes. Voilà, c'est, donc il y avait une intention politique, ne racontons pas d'histoire. Sauf que là, effectivement, ça n'a pas marché, que c'était sans doute un peu trop gros, que trop de com tue la com et tue la politique, qu'au bout d'un moment, plus personne ne veut jouer le jeu, et que c'était tellement une volonté de répéter ce qui s'était passé lors des, à la fin des Gilets jaunes, que tout le monde a bien senti l'intention de communication politique. La communication politique, quand elle est bonne, elle ne se voit pas. Vous voyez ?
Absolument.
Quand elle se voit trop, c'est raté. Et là, c'est, ça s'est tellement vu, c'était tellement gros, que tout le monde l'a très vite compris et que tout le monde a dit on arrête de jouer à ça.
Quand soulèvement de la terre, les soulèvements de la terre, donc ces éco-terroristes, je reprends les mots d'Emmanuel Macron et du gouvernement il y a quelques semaines maintenant, ont été invités à la table de ce grand débat. Voilà quelle a été la réaction des principaux syndicats agriculteurs et des paysans lambda notamment. Regardez.
Foutre de la gueule du monde. C'est les gens qui sont des limites terroristes. Je vais vous dire le problème de M. Macron, c'est qu'il ne veut pas, il ne veut pas affronter les agriculteurs.
Il faut aussi inviter les Black Blocs, ça serait sympa. Comme ça, je pense qu'il y aura tout le monde, quoi. Je pense qu'il faut... C'est ce... Mais bon, c'est sa technique. Comme ça, il va faire une grand-messe et puis ça va être un tel bordel que... Bah, il sortira encore vainqueur du dossier.
C'est pas le problème du débat, mais on sait très bien qu'avec ces gens, le débat reste stérile.
Comme des nus, je comprends plus rien. Je ne sais plus que faire le président de la République, de nous, des agriculteurs et de la France.
Avant même que ce débat soit annulé, je crois le jeune, c'était une fausse bonne idée et c'était déjà assez humiliant, je trouve, pour Emmanuel Macron, cette réaction-là, puisque lui voulait partager, débattre... plutôt que de faire des annonces ou de prendre des décisions, de discuter avec les paysans. Pourquoi ne l'avoir pas fait avant et attendre effectivement le salon de l'agriculture? Et puis surtout cette réaction en chaîne qui le ridiculise un peu, je trouve.
C'est pas pour vous contredire, mais s'il n'y avait pas eu ce cafouillage gigantesque, je pense que ça aurait pu marcher. C'est-à-dire que, ouais, je pense que c'était suffisamment spectaculaire pour nous occuper, nous, les médias.
Oui, c'est vrai.
Tout le monde ne serait pas tombé dans le panneau, mais la plupart quand même.
Mais qu'est-ce qui en serait sorti?
Ah bah, vous savez, c'est simple. Trois phrases. Un moment, ce qui en serait sorti, qu'est-ce qui a été espéré par l'Élysée? Un agriculteur, des agriculteurs passifs et dominés par la compétence technique du président sur les dossiers, parce qu'on a maintenant on a compris, il est très technique, il s'intéresse à tout, il a des chiffres, etc. En face, des hystériques complètement fous avec des cheveux bleus et au milieu, un Emmanuel Macron rassurant. Non mais c'est ça qui les espérait. Et la vérité, c'était mettre en scène un antagonisme avec des paysans bon esprit mais respectueux, parce que c'est des gens respectueux aussi. Souvenez-vous, quand ils ont eu le début du commencement du quart d'une annonce, ils sont rentrés chez eux avec leur en disant on verra bien mais on espère qu'on s'est pas fait avoir. Donc en fait ça aurait été une très bonne je pense que ça aurait pu être une très bonne opération de communication, malheureusement. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette idée? Parce que vous avez dit ils auraient pu venir avec des annonces. La vérité c'est qu'il n'a pas d'annonce à faire.
Ah, voilà.
Il n'en a pas. Pourquoi? Parce que je à gros traits, les agriculteurs, dans leur colère, quand on les a écoutés sur leur tracteur quand ils venaient jusqu'à Rungis, ils remettaient en cause trois dogmes. L'Union européenne d'aujourd'hui, le Green Deal et compagnie, le libre-échange avec les traités qui sont encore en cours de négociation à l'heure où on parle, troisièmement, l'écologie punitive, folle, incarnée par les soulèvements de la terre à l'extrême. Sur ces trois grands points, c'est la doctrine d'Emmanuel Macron. L'écologie, il l'a embrassée. L'Union européenne, c'est son ADN politique. Le libre-échange, c'est là-dessus qu'il s'est fait élire. Donc, moi, si vous me permettez, il n'a pas les moyens de répondre à cette colère. Donc, il met en scène des oppositions factices.
Philippe Guibert, Emmanuel Macron accueillera les agriculteurs. Il fera l'ouverture du salon de l'agriculture demain, porte de Versailles à Paris. Ils sont déjà là, les agriculteurs. On a pu les apercevoir, puisqu'on n'est pas très très loin. Nos plateaux ne sont pas très très loin, en effet, notamment sur le périphérique avec les tracteurs. Peut-être joue-t-il un jeu assez dangereux, tout de même, avant de les accueillir. Regardez notamment sur le réseau X d'Emmanuel Macron ce que dit le chef de l'État, ce que dit le président, que finalement cette idée de grand débat était venue de la part des paysans. Les syndicats agricoles ont voulu que ce salon ne soit pas un salon comme les autres. Ils avaient voulu un débat ouvert. Ils en demandent aujourd'hui l'annulation, dont acte. Mais les paysans répondent, Philippe Guibert, qu'à aucun moment ils n'ont demandé ce grand débat.
Oui, non, bien sûr, mais là c'est de l'habillage qui ne trompe personne. À un moment donné, il ne faut même pas commenter. Quand vous annulez piteusement une initiative que vous avez eue, il ne faut même pas commenter. Tout le monde a compris que c'était, ça n'avait pas très bien marché. Je pense que le coup de communication n'aurait pas marché parce qu'il y a des gens qui ne seraient pas venus. Tu vois, Geoffroy.
C'est vrai,
donc, donc, à partir du moment où tu n'as plus la FNSEA, le coup est raté. Donc, non, c'est un énorme ratage. Maintenant, vous avez parfaitement raison de souligner que demain matin, ça risque d'être un peu sportif. Parce que, si vous voulez, quand un chef de l'État donne le sentiment qu'il se moque un peu des populations, que ce soit des écologistes ou des agriculteurs en l'occurrence, qu'il veut les instrumentaliser pour sa propre communication et pour sa propre image, ça peut se payer très cher. Je veux dire, la communication dite de proximité est à double détente. Il faut vraiment que ça soit très réussi, sinon vous êtes à portée de baffe, si je peux me permettre. Et là, vous êtes un peu, il s'est mis un peu à portée de baffe. Donc je pense que des gens voudront lui faire payer ce sentiment qu'il a instrumentalisé tout ça. Il savait que le salon de l'agriculture cette année ne pouvait pas être un salon de l'agriculture comme d'habitude. Il a voulu utiliser la force de l'événement et la retourner à son bénéfice. Bon, sauf que voilà, c'est raté. Donc, je pense qu'il prend quelques risques demain matin et qu'en même temps, ne pas y aller serait vraiment un aveu d'échec. Je pense que cette affaire est une immense faute politique parce que je suis d'accord avec toi, Geoffroy, il n'y a pas d'annonce à faire. Mais enfin, il y a quand même des choses qui ont été lancées par Gabriel Attal. Et là, d'une certaine manière, il sape un peu toutes les annonces qui ont été faites par Gabriel Attal. C'est quand même pas, tout à fait rien ce qui a été annoncé par Gabriel Attal. Donc, je trouve que là, il affaiblit profondément son gouvernement. Je pense que les ministres doivent être furieux. Je pense que le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Intérieur doivent être tout à fait furieux. Et il s'est affaibli lui-même en se prenant au piège de sa propre communication en disant « je vais continuer à être le grand Macron ».
À moins qu'il vienne avec des annonces choc. Notamment vis-à-vis de l'Europe.
Oui, mais qu'est-ce qui... Mais vis-à-vis de l'Europe, c'est très compliqué dans les annonces.
Ouais,
c'est que vous êtes 27. Donc, faire des annonces européennes, sauf à dire, en tout état de cause, je ne signerai pas le traité du Mercosur, mais il provoque une petite crise.
Évidemment, mais quand on est capable de dire que c'est insoutenable ce que la Russie exerce sur l'Ukraine, notamment dans le conflit qui oppose ces deux pays, il peut dire la même chose par rapport à l'Europe pour défendre des paysans français. C'est ce qu'attend le peuple français, justement.
Oui, alors, oui.
Et cette dichotomie, les gens ne la comprennent pas.
Vous avez raison. Parce que c'est normal, pardon, juste d'un mot, c'est normal que ça soit encore en négociation, parce qu'il y a eu un mandat qui a été donné. Normalement, l'échéance, c'est à la fin des négociations. Là, vous pouvez dire, chaque pays peut dire oui ou non. Mais il peut annoncer aujourd'hui que de toute façon, quoi qu'il arrive, il ne signera pas.
Oui.
Il faut bien calculer son coût là aussi.
Peut-il arriver, Geoffroy Lejeune, avec des annonces demain très précises, fortes, parce que c'est ce qu'attendent les agriculteurs qui n'y croient plus, pour la plupart. La plupart, d'ailleurs, avant même qu'il y ait ce couac donc, qu'on est en train de décrypter, certains agriculteurs disaient nous, on veut aucun politique au salon. On veut bien leur parler, mais. Dans le salon, normalement, l'hypocrisie des politiques qui vont venir serrer des mains, ça ne nous intéresse plus.
Ils ont raison. Je réponds à votre formule tout à l'heure. Le peuple français attend beaucoup de choses qu'Emmanuel Macron ne lui donne pas en réalité sur beaucoup de sujets. Donc c'est pas parce que les gens sont d'accord que ça va se faire pour autant. Pourquoi j'y crois pas ? Vous avez dit, en fait, vous avez raison. Il y a eu des Philippe et Lionel, il y a eu des annonces de Gabriel Attal après, pendant la crise agricole, etc., qui allaient plutôt dans le bon sens. Les agriculteurs, les premiers, en convenaient. D'accord. Mais il y a annonce et annonce. En fait, ce qui se passe pour les agriculteurs aujourd'hui est quelque chose qui a été décidé il y a 30 ans. C'est un choix politique qui a été fait par l'Europe, qui a été fait par les peuples européens qui ont tous validé peu ou prou au moment de Maastricht. Et ensuite, la feuille de route a été appliquée. Très largement dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on n'a plus d'industrie, c'est pour ça que l'agriculture est en train de mourir. Ce choix politique-là, aujourd'hui, personne ne le remet en question, en tout cas pas nos gouvernants. Je veux dire, il y a des partis politiques, Marine Le Pen...
Il n'est pas facile à les remettre en question.
Non, je suis d'accord, mais en fait, il y a des partis politiques qui ne sont pas au pouvoir qui le remettent en question, et Emmanuel Macron, pas plus que tous ceux qui ont gouverné la France avant, ne l'ont remis en question. C'est ça que je voulais dire, pardon. Il n'est pas facile à remettre en question, je suis d'accord. Mais encore faut-il le vouloir. Emmanuel Macron ne veut pas le remettre en question. Emmanuel Macron est le dernier héritier des gens qui ont construit cette Europe-là, qui a mis l'agriculture dans cet état-là. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, par exemple, moi j'étais étonné, ils sont très techniques sur la question ukrainienne. Ils ont tous compris ce qui allait leur arriver concrètement dans la figure, sur les céréales, sur le poulet, etc. J'ai été frappé parce que quand on écoutait les ronds-points à l'antenne sur CNews, il y avait vos envoyés spéciaux qui étaient partout en France et qui faisaient remonter les doléances, ils parlaient de sujets dont les médias ne parlaient pas. Ils parlaient de sujets avant nous. Il disait, l'Ukraine, attention, on aime bien les Ukrainiens, on est contre l'agression par les Russes, mais il y a un énorme problème parce que le poulet va arriver chez nous et on ne peut pas lutter. Et les céréales, etc. Ouais. Donc, sur cette question-là, et je prends juste cet exemple-là, la réponse, on la connaît. C'est, attention, stop, on ne fait rien, parce que sinon on va étrangler nos agriculteurs encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Cette question, nos gouvernants se la sont posée. Le sujet a été évoqué. Gabriel Attal, qui recevait des agriculteurs, en a entendu parler. Il a dit, ils ont raison. Et on devrait suspendre cette disposition qui va les mettre dans une situation encore plus catastrophique. Emmanuel Macron lui-même le sait, et pour autant, ils ne l'ont pas annoncé. Parce que le choix a été fait de ne pas aller dans ce sens-là. Donc en fait, je réponds à votre question, Lionel. Sur cette question, nos gouvernants décident contre l'intérêt des agriculteurs.
Exactement.
Pour la vie des Français.
Et le peuple français, pour reprendre encore cette expression, Philippe Guibert, ne comprend pas. Je sais qu'il y a une problématique de budget, mais ne comprend pas qu'on alloue que la France alloue 300 milliards plus exactement à l'Ukraine, 3 milliards à l'Ukraine et 10 fois moins aux agriculteurs.
Oui, alors c'est pas exactement la même chose que d'aider l'Ukraine
à faire la guerre
et à faire la guerre
et laisser mourir les paysans. Ça, les Français ne comprennent pas.
Oui. Ce qui est scandaleux dans la décision des 3 milliards d'aide à l'Ukraine, c'est pas les 3 milliards d'aide à l'Ukraine, c'est le fait qu'il n'y a aucun débat au Parlement et aucun vote au Parlement. C'est-à-dire que c'est une décision qui contourne totalement la représentation nationale, qui est là en l'absence de référendum, pour quand même voter à notre place. C'est le rôle de la représentation
nationale. Et ça fait 2 ans que ça dure.
Et c'est extrêmement discutable. Et je trouve qu'au minimum, il devrait y avoir un vote là-dessus. Pas simplement un débat. Des débats, c'est bien. Mais on devrait avoir un vote là-dessus. Dans le même temps, tout le monde oublie que Bruno Le Maire nous a dit qu'il fallait économiser 15 milliards d'euros cette année. Le budget vient à peine d'être voté, il y a 3 mois. Et la révision des chiffres de la croissance pour 2024 fait qu'il veut économiser 15 milliards d'euros. Donc là, l'exécutif est pris à son propre piège, c'est-à-dire que les 3 milliards d'aide à l'Ukraine, c'est dans le cadre de l'OTAN, c'est dans le cadre aussi des déclarations de Donald Trump qui a dit « si vous ne payez pas, si je suis élu, je vous laisserai tomber », pour le faire très court. Et donc tout ça répond à des logiques différentes qui fait que le gouvernement lui-même, l'exécutif lui-même, c'est un peu piégé. Maintenant, il faudra de toute façon passer par une aide plus forte aux agriculteurs à court terme. Et ensuite, au niveau européen, je crois que là aussi, Emmanuel Macron est piégé. Parce que tu as raison de dire qu'il est en contradiction avec son discours, y compris le discours qu'il compte tenir pendant la campagne européenne. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, mais pour lui, ça se voit plus qu'il est au pouvoir. Les autres aussi sont un peu piégés. Même Marine Le Pen, qui n'est pas d'une clarté absolue, depuis qu'elle a dit qu'elle ne voulait plus sortir de l'Europe et de l'euro, qui tient un discours anti-européen, mais dont on ne voit pas trop les conséquences qu'elle tire. Donc tout le monde est piégé, mais lui, il est au pouvoir et donc lui doit assumer la responsabilité que les autres peuvent simplement résoudre en belles paroles. Donc voilà, donc là, il est dans un moment où il faudrait qu'il fâche, qu'il renverse quelques tables. On parle beaucoup de l'Europe, il y a une autre table qu'il faudra renverser qui est celle de la distribution, de la grande distribution.
Oui, absolument.
Parce qu'il a un bras de fer au niveau européen avec l'Allemagne sur ce traité de libre-échange et de Mercosur où les intérêts allemands sont complètement inverses des nôtres, mais il a un autre bras de fer à mener avec Bercy, qui soutient de façon permanente depuis 30 ans la grande distribution au nom de la libéralisation économique, du bas prix, et que ça a bien contribué aussi à l'appauvrissement de nos agriculteurs.
À ce sujet-là, Michel-Édouard Leclerc avait annoncé qu'il ne viendrait pas si il avait été invité.
Ça fait un mois et demi qu'on ne l'entendait plus.
Voilà, par rapport à la grande distribution,
très discret,
ce grand rendez-vous, en tout cas, avec Emmanuel Macron, cette grande réunion ne tenait pas la route. Philippe Guibert, les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, dans le temps, aurait-il pu se retrouver dans la même impasse que le chef de l'État actuel avec les agriculteurs?
Oui, tout à fait.
Faire les mêmes erreurs de communication?
Faire les mêmes erreurs de
communication. Et se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire dire aux agriculteurs, je vous ai offert une chance de discuter avec moi et vous l'avez refusé.
Les mêmes erreurs de communication, ça je ne sais pas. Ayant travaillé sous François Hollande, des erreurs de communication,
il y en a eu.
J'en ai quelques-unes en mémoire. Et en général, on dit toujours que c'est les conseillers qui sont responsables des erreurs de communication. C'est pas toujours le cas. C'est même pas souvent le cas. Pardonnez-moi. Erreur de communication, ça je ne sais pas. Dans une situation comparable de contradiction entre ses engagements européens, son discours européen et la réalité des agriculteurs, oui, je crois tout à fait. Parce que comme le disait Geoffroy, ça fait pas 5 ans, ça fait pas 10 ans, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on avance dans cette situation.
La transition est toute trouvée pour parler de la présidentielle 2027. L'actualité politique nous y projette chaque jour. Et donc ce soir, par le prisme d'un ouvrage que je vous recommande, Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France aux éditions du Cerfigny. Philippe Guibert, on le voit à l'image et je l'ai ici en main, et Geoffroy Lejeune a eu cette excellente idée la semaine dernière et nous sommes de parole, Geoffroy, pour évoquer et débattre avec Philippe de cet ouvrage donc qui vient de paraître cette semaine. Le pitch, en deux mots, avant qu'on vous apporte un peu de contradiction peut-être à votre
merci
écrit Philippe Guibert, avec plaisir.
Le pitch aussi, sinon.
C'est inventer. Vous voulez faire le pitch?
Non, il faut que Philippe commence, mais je vais faire le pitch aussi.
Ah très bien, c'est quoi? C'est inventer un chef nouveau, c'est ça?
Pourquoi nos présidents, et plus généralement nos leaders politiques, ont perdu en autorité et en légitimité? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on est passé d'un système qui tournait à peu près, qui avait des défauts, il n'y a pas de système parfait, mais qui faisait qu'on avait un président qui était légitime, avec un fort taux de participation au présidentiel, un président qui avait un mandat. Comment se fait-il qu'on est passé à un président mal élu, qui gouverne avec ses 25-30% de bloc électoral, et qui se retrouve pris dans plein de contradictions, dont celle dont on vient de parler, qui un jour se fait manager de la globalisation en faisant passer des réformes structurelles, qui le lendemain, face à une crise de la globalisation qui a provoqué ou qui a accéléré la globalisation, il est obligé de jouer l'urgentiste en chef. Et puis le président qu'on a connu dans la tradition gaulo-mitterrandienne, qui était tout le temps avec une maîtrise du verbe exceptionnelle, avec d'autres présidents qui avaient la même maîtrise d'ailleurs, on est passé au président populiste malgré lui, c'est-à-dire qui joue un jeu de la révolution numérique, mais dans lequel il perd beaucoup en prestige et en charisme, à mon sens. Et donc on se retrouve avec un président affaibli, peu légitime, qui a perdu en autorité. Et je pense que c'est un problème, c'est un grave problème, parce que quand on n'a pas de chef, qu'on n'a pas un chef qui entraîne et qui est juste dans la contrainte, eh ben le pays va mal.
Voilà pourquoi on a inscrit le code à changer et on se projette sur 2027. Qui pour succéder à Emmanuel Macron peut, puisqu'on sait pertinemment qu'il ne pourra pas se succéder à lui-même. Prolongez le pitch, comme vous en aviez envie de le faire, Geoffroy Lejeune, de cet ouvrage que vous avez dévoré.
En fait, j'avais commencé la semaine dernière et comme on a eu cette idée de débat pendant l'émission, j'ai lu cette semaine. Moi, je vais juste dire... C'est un livre très agréable. Déjà, c'est très agréable à lire parce que ça m'a rappelé quand j'étais étudiant et que je faisais de la science politique à la fac. Et quelques bouquins m'ont marqué à l'époque. Celui-là, si je l'avais lu à l'époque, m'aurait marqué. Honnêtement, c'est vraiment un super boulot. Ça me fait plaisir de le
lire. Merci. Ouais.
Parce que
un vrai travail de recherche historique.
Parce que il y a de l'histoire, exactement.
Exactement.
Il y a beaucoup de fonds. Il y a de la science politique.
Ouais.
Et en fait, c'est jamais chiant, si vous me pardonnez ce mot-là. C'est-à-dire que c'est une vraie histoire qui est racontée. Donc moi, j'ai adoré. Et c'était ma matière préférée quand j'étais à la fac. Donc je me suis retrouvé étudiant un peu. C'était une grande nostalgie. Et il y a une autre qualité au bouquin, au-delà de la plume de Philippe, c'est que tout le tableau est brossé. C'est-à-dire qu'il y a tous les aspects il suffit de se plonger dans le sommaire, de tout ce qui fait les critères de sélection d'un chef et de réussite d'un chef. Et donc, à la fin, d'un chef politique. Et donc, à la fin, vous avez presque le manuel, le guide pour chercher la bonne personne. Et il y a une autre chose qui m'a intéressé, c'est que c'est la démonstration, la plus parfaite démonstration. Votre question était, qui pour succéder à Emmanuel Macron?
Ouais.
C'est la parfaite démonstration que le problème n'est pas Emmanuel Macron,
exactement,
au sens, c'est pas la personne en fait.
Exactement.
Et le diagnostic, il est impitoyable. En fait, on est dans un système aujourd'hui, on est arrivé au point du désastre. C'est-à-dire que la solution, la réponse en fait, on l'a même pas. Qui va lui succéder? On n'en sait rien. Et en fait, par contre, le problème est tellement bien posé que vous voyez qu'on ne s'en sortira pas par une personne qui sera différente d'Emmanuel Macron parce que la politique sera différente, etc. C'est beaucoup plus profond que ça.
Vous n'avez donc aucun désaccord avec ce qui était écrit dans cet ouvrage?
J'ai un désaccord énorme.
C'est ça qui est intéressant.
Philippe est un... C'est même pas une question de gauche-droite, pour revenir sur notre débat. C'est pas du tout une question de gauche-droite. Philippe est un républicain fervent. Et mon désaccord avec la thèse du... Il n'y a pas vraiment de thèse dans le livre, c'est plus une explication qui laisse le lecteur très libre d'ailleurs.
Ouais.
Mais mon désaccord avec Philippe, c'est je pense que, et c'est pour ça que je rappelle qu'il est républicain et que c'est vraiment notre grand sujet de discussion, je pense que la République, même si ça a pris 200 ans, a créé les conditions, Et la désagrégation de la Ve République tout particulièrement a créé les conditions du désastre dans lequel on est aujourd'hui. Donc quelqu'un comme Philippe nous dira il faut retrouver les fondements de la République, etc. etc. Et moi, en lisant ça, je précise que j'ai pas une formation monarchiste, etc. Je me suis dit, ils ont été peinards pendant 1500 ans avec la monarchie. C'est exactement ce que je me suis dit à la fin du livre.
Ah ouais.
Ouais. Je vais un peu loin, mais...
Parce que peinard avec 1100 pendant 1500 ans, pas tout à fait quand même.
D'accord.
On reconnaît que ça a été souvent assez sportif.
Bien sûr.
Et que la monarchie à la fin était quand même bien bien virulée, si je peux me permettre.
Absolument.
Cette expression.
D'ailleurs, elle est tombée.
Le problème, c'est que là, notre République est un peu en train de se pervertir. Moi, j'ai une solution. Tu dis, j'ai une solution. Alors, si vous allez me dire, c'est pas une idée très originale, je pense qu'il faut un levier pour débloquer le système qui s'est complètement verrouillé, dans lequel le président s'enferme en se croyant confortable, alors qu'en fait, il s'expose aux pires avanies, Emmanuel Macron en ce moment. C'est le référendum d'initiative populaire et parlementaire. Ça ne me dérange pas qu'il soit partagé.
J'en étais sûr. Allez, on va dire.
Mais le problème, c'est que là, il est organisé par la réforme constitutionnelle de 2008 pour qu'il ne soit pas utilisé. On en a eu la confirmation récente au moment de la réforme des retraites où il était impossible d'organiser un tel référendum. Et moi, je pense que ça peut débloquer le système parce que notre problème démocratique, c'est qu'entre deux présidentielles, entre deux deuxièmes tours de présidentielles, tous les autres votes n'ont pratiquement aucune importance. C'est-à-dire que les législatives se font au différentiel d'abstention et donc ceux de l'électorat de celui ou de celle qui a gagné forcément se mobilise plus les autres et ça lui fait une majorité relative ou absolue.
Donc c'est pas un problème d'individu.
Non, ce
n'est pas le problème. Y a-t-il un héritier à un Mitterrand? Y a-t-il un héritier à un Chirac?
Non, parce que l'époque a changé et que l'écosystème présidentiel a profondément changé. Donc je pense que dans ce système complètement verrouillé, pour remettre un peu du déséquilibre et de l'instabilité, mais de l'instabilité positive, si je peux me permettre ce néologisme, c'est de faciliter le recours au référendum d'initiative parlementaire et populaire. Ça servira au président ou à la présidente prochainement élue.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il pourra se dire, oh là là, si je ne fais pas gaffe, le référendum, il va me tomber sur la figure parce que ça sera plus facile de le déclencher. Et à ce moment-là, on serait obligé de bouger.
Vous faites bien de préciser où le président ou la présidente qui peut être élu, parce que le livre, c'est l'histoire qui le raconte aussi. C'est votre plume, mais c'est l'histoire aussi. Le livre est très masculin. Il n'y a eu que des présidents.
Oui, alors j'ai eu une grande hésitation là-dessus. Je me dis, est-ce que je me lance dans le sujet?
Et voilà.
La femme présidente. Et je me suis dit que c'était presque un autre livre, parce que ça suppose de travailler. J'aime pas raconter des trucs comme ça.
Ça veut dire que ça occulte peut-être les chances de Marine Le Pen d'être présidente
en
2027
dans votre pouvoir ? Non, pas du tout. Pas très original que dire que à ce jour, il reste 3 ans.
C'est un sujet.
À ce jour, Marine Le Pen est, disons, la favorite. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'elle le sera.
Les sondages le disent.
Dans 2 ans. Hein. Mmh. Le fait qu'elle soit une femme ne me paraît pas un handicap pour elle. Le fait qu'elle. Alors j'ai une théorie sur les femmes d'État ou les femmes politiques. C'est que quand elles sont sorties, ma thèse est affreusement patriarcale, j'en suis désolé, ça va nuire à ma réputation. Quand elles sont sorties de la séduction féminine, elles peuvent devenir des chefs d'État. Et donc, je pense que Marine Le Pen arrive à un moment où elle peut devenir présidente. Elle peut d'autant plus le devenir que sa concurrence n'est pas toujours forcément à la hauteur.
C'est ça. Et qui en face de Marine Le Pen? Est-ce que ça peut être la gauche, LFI? Est-ce que ça peut être peut-être une alternative à Emmanuel Macron? On aura l'occasion d'en parler dans notre prochaine émission, puisque le temps s'écoule beaucoup trop vite c'est déjà terminé. Oui, l'émission est un petit peu raccourcie, vous le savez, car nous allons retrouver grande interview avec Manon Aubry dans quelques instants. On prolongera le débat, parce que de toute manière, l'actualité de l'année est là-dedans.
On parlait toutes les semaines.
Ouais. Bien sûr. Gulliver enchanté, ça vient de sortir, signé Philippe Guibert aux éditions.
Enchanté, parce qu'il n'est pas...
Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France, évidemment. Pardon pour le lapsus, mais vous voyez, j'étais enchanté de cette émission. Voilà pourquoi je reste enchaîné aux propos et aux mots. Merci Philippe.
Merci
Lionel. Merci Geoffroy. On marque une pause et on retrouvera évidemment Olivier de Carenfleck aussi à partir de 22h pour l'information sur CNews.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.